Bonjour Alexandra, bienvenue dans le podcast Atypique Kids.
Bonjour Nawel, ravie d'être là.
Également, je partage ce plaisir de t'interviewer. Alors, avant toute chose, j'ai une préférence quand mes invités se présentent eux-mêmes. Est-ce que tu voudrais bien te présenter à nos auditeurs ?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandra Devaux, j'ai 47 ans et je suis là, entre autres, parce que je suis professeure des écoles. Je suis une femme hautement sensible, aussi détectée par un test de Douance HPI complexe. Je suis maman de 3 enfants hautement sensible, et puis ça a une part très importante dans mon enseignement forcément et dans ma relation à mes élèves. Et donc on a eu l'occasion d'échanger là-dessus et on a eu envie d'approfondir un petit peu ça.
Voilà, tout à fait. Alors justement, quand est-ce que toi, à titre personnel, tu as compris que tu étais différente ? Et quand tu as eu cette information, qu'est-ce que tu en as fait ?
Alors moi je pense que j'ai toujours eu l'impression d'être différente, sans que ça me dérange, plus que ça en fait. J'en parlais pas, je savais qu'il y avait des choses qui étaient pas pareilles, mais voilà, ça m'a jamais vraiment embêtée comme d'autres où je sais j'ai pu avoir beaucoup de discussions, voilà. Mettre des mots, en fait, c'est arrivé en 2020, où en fait je commençais à lire, c'était au moment du confinement, on avait du temps, un petit coup d'arrêt dans la vie pro, etc. Et j'ai commencé à lire et à me questionner par rapport notamment à ma fille, en fait. Et au hasard d'une rencontre, d'une discussion, enfin j'ai découvert ce que c'était la haute sensibilité. Et puis très vite, en fait, j'ai fait le lien avec moi. Et donc j'ai continué à me renseigner sur ma fille, mais en même temps, je prenais beaucoup de renseignements sur moi. Donc j'ai vu que j'étais concernée. De fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Je pense qu'il y avait une petite voix dans ma tête qui m'a toujours dit que j'étais précoce, parce que mon parcours ressemblait à ça, mais... Déjà, j'ai 47 ans, donc quand j'étais petite à l'école, on n'en parlait pas. Puis après, bon voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc finalement, c'est plutôt assez sympa de se rendre compte qu'on a des facilités pour faire certaines choses. Quand il suffit de se mettre un petit peu au travail et il y a de la réussite. Et puis voilà, j'y voyais en fait le côté positif, mais sans forcément mettre de mots. Puis à force de discuter avec des gens, j'ai été amenée à rencontrer du monde, des gens qui me disaient « Oh, si, je pense », etc. Et une psy avec laquelle j'ai été formée auprès de l'Observatoire de la sensibilité. En fait, je lui ai demandé de me faire passer le test de Douance qu'elle proposait. Et finalement, elle a mis les termes de haute sensibilité, d'ultra sensibilité et de HPI complexe dessus. Donc voilà, c'est assez récent les termes. En même temps, je pense qu'on a quand même conscience de tout un tas de choses sans forcément mettre des mots dessus bien avant.
Tu exprimes un petit peu ce sentiment que tu as eu d'avoir envie de savoir. Alors, c'est vrai que moi, en coaching, j'ai beaucoup de gens qui viennent en me disant ben, « En fait, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il faut que je fasse un test? Est-ce que je dois ?» Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui se posent la question « Est-ce qu'il faut savoir? Est-ce qu'il faut aller faire ce test? Est-ce que ça suffit de se reconnaître dans ce qu'on peut entendre de son atypique, que ce soit l'hypersensibilité ou le haut potentiel ?» Voilà. Qu'est-ce que tu peux conseiller là-dessus? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de faire la démarche ?
Ouais, alors finalement, c'est pas tant le terme, c'est plutôt le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai recherché, moi, à travers les lectures et avec le test de Douance. C'était plutôt de savoir, finalement, comment je fonctionnais. Et si finalement, à la fin du test de Douance, on m'avait dit « t'es pas HPI, mais tu fonctionnes comme ça », ça m'aurait suffi, en fait. C'était plus savoir la manière dont fonctionnait mon cerveau, pourquoi telle réaction, pourquoi telle relation aux autres... plus qu'un mot, en fait. Donc, et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans la recherche, c'est pas finalement de se mettre des étiquettes de ci ou de ça, mais de comprendre comment on fonctionne, comment on identifie ses besoins, comment on pose ses limites, et puis comment on vit mieux tout ça, quoi. Même si on se sent décalé, on peut très bien le vivre, en fait.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, je te rejoins là-dessus. Moi, j'insiste toujours sur le fait de poser l'enjeu avant de faire cette démarche, en fait. Qu'est-ce que je veux en retirer ? Qu'est-ce que j'attends du résultat ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ?
Exactement.
De faire cette démarche-là ? Alors, du coup, dans la foulée, tu as été te former auprès de l'Observatoire de la sensibilité. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est l'Observatoire de la sensibilité ?
Donc c'est un observatoire qui a été créé par Saverio Tomasella pour regrouper en fait les recherches et les études liées à la sensibilité en général, à la haute sensibilité en particulier, mais à la sensibilité en général, parce qu'en fait on est tous sensibles, on a tous une sensibilité, certains plus que d'autres. Et en fait, voilà, c'est un endroit où des gens publient des recherches, souvent des recherches américaines que Saverio Tomasella se charge de traduire en français, Moi, j'ai écrit une chronique tous les mois sur mon métier de professeur des écoles sensibles. Il y a un annuaire avec plein de professionnels qui sont formés pour l'accompagnement des personnes hautement sensibles. Et en fait, voilà, c'est un endroit où on peut aller puiser des infos, des références littéraires, vraiment sur la sensibilité, que ce soit celle des adultes, des ados, des enfants, dans le boulot, dans la vie perso, enfin vraiment dans tous les domaines.
Ok, super. Alors effectivement, je mettrai le lien dans la bio pour que nos auditeurs puissent aller regarder, et notamment ceux qui sont intéressés d'aller lire tes chroniques sur ton métier d'institutrice. Et donc on va y venir. Toi, Alexandra, comment est-ce que tu enseignes avec cette couleur qui est la tienne, cette particularité et cette singularité que tu as ?
Alors en fait, j'ai toujours enseigné avec un espèce de moteur derrière la tête qui était qu'il fallait que mes élèves soient bien en classe. Et en fait, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je le faisais de manière inconsciente. Voilà, c'est pas conscientisé comme un objectif en soi, mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est ce que je faisais. Avec évidemment des réussites, des échecs, comme dans tout boulot, hein, de toute façon. Et depuis que je sais, en fait, j'ai compris aussi comment j'enseignais. Et donc maintenant, j'ai l'habitude de dire que je suis une enseignante qui le fait de manière consciente. C'est-à-dire que c'est mon premier objectif en classe, c'est que chaque élève soit bien, parce que je pars du postulat qu'un élève qui est heureux d'être là travaille, quel que soit son niveau et quelles que soient ses difficultés. Et il se trouve que ça marche, en fait. C'est-à-dire que vraiment, alors parfois, la mise en place du bien-être d'un élève en particulier peut être longue, mais en tout cas, c'est mon objectif. Et une fois que cet objectif est atteint, bah, en fait, le travail... ça coule tout seul derrière, donc c'est plus du tout un problème. Il y en a qui partent avec un niveau faible, il y en a un niveau haut, peu importe en fait. Mais ils progressent tous, voire ils rattrapent assez vite leur retard. Mais voilà, le premier, c'est j'arrive en classe, je suis contente de venir. Et je repars de l'école avec le sourire, avec le sentiment d'avoir passé une bonne journée, même s'il y a eu des choses qui ne sont pas allées dans la journée. Et comme ça, je repars de l'école avec le sourire et je suis contente d'y retourner le lendemain. Et donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on est heureux d'être là, ben, ce que je leur demande de faire, ils le font. Donc, ça avance parfaitement dans les apprentissages à côté.
C'est très touchant ce que tu dis, Alexandra, parce que pour ceux qui, comme moi, ont pu avoir des rapports difficiles à l'école, d'entendre une institutrice parler comme ça, on rêverait tous, effectivement, d'avoir connu ça dans notre parcours scolaire. Alors, est-ce que tu peux, pour qu'on comprenne un petit peu finalement comment tu fais au quotidien, nous raconter un peu peut-être une journée type dans ta classe ?
Exactement. Bah, en fait, elle commence le matin quand ils arrivent. Donc déjà, j'essaie de mettre les radars en marche pour savoir qui arrive avec le sourire et qui n'arrive pas avec le sourire déjà. Celui qui arrive avec le sourire et qui est content d'arriver, bah voilà, il arrive. Et puis l'autre, déjà, je prends du temps avec lui pour savoir ce qui va pas. Souvent, c'est quelque chose qui s'est passé à la maison puisqu'ils n'étaient pas à l'école avant. Je ne suis pas là pour régler les problèmes de la maison. Par contre, je leur explique qu'à partir du moment où on en parle, déjà, il y a une partie du problème qui est libérée. Et puis, on peut en discuter ou pas. Mais qu'ils aient déjà cette sensation, comme on dit, hein, quand on a un nœud à l'estomac, et que d'un seul coup, ce nœud, il se libère. C'est ce que j'essaie de faire pour que déjà, ils arrivent à se soulager de la colère avec laquelle ils arrivent, etc., sur laquelle je n'ai pas de prise. Mais en tout cas, leur apprendre que, OK, voilà, il s'est passé ça, et puis maintenant, on va en profiter pour se mettre dans un autre état, parce que, on est à l'école, on est avec les copains, etc. Donc déjà, c'est une chose. Et je peux faire ça parce que le matin, par exemple, on commence toujours, on a 10 minutes, ce que j'appelle d'accueil calme, où ils arrivent, ils se retrouvent. Voilà, donc pendant 10 minutes, ils parlent des résultats du foot de la veille, ils distribuent leur carte d'anniversaire, peu importe. Et moi, ça me laisse du temps pour parler avec un ou deux élèves en particulier. Puis on arrive, on s'installe tranquille plutôt que directement aller s'asseoir. Et puis arriver focus, ce qui est très compliqué parce que ils ont 10 minutes ensemble dans la cour. Donc quand ils sont là bien les 10 minutes, ils ont eu le temps de discuter. Mais celui qui arrive à la dernière minute, il a toujours plein de choses à dire aux copains. Et il ne pense qu'à ça. Donc voilà, ils savent qu'ils ont ce temps-là. Par contre, une fois que le timer sonne au bout de 10 minutes, c'est le moment où on reprend la posture d'élève. Donc, on retourne s'asseoir et on va rentrer dans les apprentissages. Et la suite de ces petites discussions aura lieu à la prochaine récré. Mais on a eu ce temps-là. Voilà, on n'arrive pas frustré, avec plein de choses à dire. Voilà. Donc, on commence toujours comme ça. Après, c'est de l'identification personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, au bout d'un moment, je sais qu'ils n'arrivent plus à tenir assis sur une chaise. Ils sont autorisés à être debout pour se dégourdir les jambes. J'ai installé des élastiques de fitness au pied des bureaux pour que justement ils puissent gigoter et pouvoir rester assis. Il y a des enfants qui, à un moment, ils saturent des gens à côté d'eux, du bruit. Donc, ils ont le droit d'aller faire un petit tour 2 minutes dans le couloir pour se remettre les idées au calme. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et je conçois ma journée pour qu'il y ait des temps où ils se déplacent. Enfin, c'est très, très compliqué pour moi de rester 6 heures assise, en fait. Donc, j'imagine que c'est encore plus compliqué pour des enfants. Des moments où on peut discuter, qui alternent avec des moments de calme, parce que ça fait du bien aussi à tout le monde, hein, des moments où il n'y a pas de bruit du tout dans une classe et où on peut se mettre dans sa bulle et être concentré. Et en tout cas, essayer d'alterner les différents moments pour satisfaire le plus de personnes, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'ils ont tous des besoins différents. Et en même temps, on vit tous ensemble. Donc, on ne peut pas être à 100% des besoins de chacun. Mais en tout cas, on essaie de composer tous ensemble avec les besoins. Et un élève qui ne peut plus avoir de voisins, il y a des tables où il peut s'isoler pour aller travailler parce qu'il sature. Par contre, je lui apprends à me demander à s'isoler avant d'être déjà énervé et d'avoir dit un truc pas joli à son voisin ou lui avoir mis un petit coup dans les côtes discrètement parce qu'il n'en peut plus. Mais arriver à comprendre que c'est ça qui monte. Et donc, voilà, ça, je sais que ça veut dire qu'il y a trop de bruit, trop de choses. J'ai besoin de m'isoler, je vais voir la maîtresse avant d'être énervée, de dire, là, je commence à rien, je m'isole. Et donc, voilà, il y a le groupe et il y a aussi les particularités de chacun qu'on essaie de gérer au quotidien pour qu'ils soient tous le plus heureux possible là où ils sont.
Ok, et alors du coup, le fait de donner une forme de liberté finalement, que tu leur autorises à tes élèves de pouvoir sortir, de pouvoir s'isoler, etc., comment est-ce que toi, tu arrives à le gérer sans une dépense d'énergie trop importante? Parce que finalement, on sait ce que c'est des enfants dans une classe, donc comment est-ce que tu arrives à garder la maîtrise des choses et le calme dans ta classe? Comment tu l'expliques du coup?
C'est dur pendant un mois et demi à peu près, parce que d'abord c'est pas un mode de fonctionnement conventionnel, donc c'est pas forcément le mode de fonctionnement qu'ils ont eu avant, donc il faut qu'ils le comprennent. Pour moi, la valeur la plus importante, c'est la justice en fait. C'est ça qui pose le plus gros problème en général aux enfants, c'est le sentiment d'injustice dans une situation. Donc comprendre que on peut être amené à être isolé parce que on a pris trop de place et c'est pas juste par rapport aux autres qui vont peut-être faire l'effort à ce moment-là de pas faire de bruit. Qu'un et un, quel droit de se lever et de faire du bruit, voilà. Donc non, ça nécessite le fait, il doit respecter aussi le silence des autres, etc. Donc en fait, ils acceptent parfaitement toutes les mises en place parce qu'elles sont justes et que cette liberté, elle est pleine de cadres, en fait. C'est ce que j'appelle des cadres rassurants, des cadres sécurisants. Il y a beaucoup, beaucoup de règles, mais ce sont que des règles sécurisantes, ils en ont besoin, les enfants. Et c'est ces règles mises en place qui permettent après une liberté. Parce que, voilà, on les comprend, on les connaît, on se sent en sécurité. Et donc, il n'y a pas de problème sur le fait d'aller s'asseoir ailleurs. On ne le vit pas comme une punition, etc., etc. Mais c'est beaucoup de discussions avec eux pour qu'effectivement, ils comprennent tout ça et qu'ils acceptent toutes ces règles, en fait. Donc, ça veut dire aussi pas venir me déranger si je suis en train de travailler avec un groupe. Donc, apprendre à être autonome. Donc, ça veut dire que moi, je m'astreins à ne pas leur répondre si c'est un moment où je ne dois pas leur répondre et qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Et je leur dis parfois, voilà, vous pensez que c'est méchant. Mais en fait, c'est pas méchant. Et j'en discute avec eux pour leur expliquer pourquoi je les ai, entre guillemets, envoyés balader à ce moment-là. Parce que, non, là, c'est mon temps qui est dédié à ces enfants-là. Il faut qu'ils apprennent à le respecter, etc., etc. Et du coup, c'est rigolo parce qu'au départ, ils me regardent un petit peu bizarrement. Et puis finalement, ils comprennent tout ça. Et oui, quand on dit, écoute, là, c'est le temps avec ce groupe-là. Si tu viens m'interrompre toutes les 2 minutes, en fait, ils n'ont pas leur temps. Et ça serait pas juste, en fait. Finalement, tout ça, ça se met en route. Et puis après, ils apprennent à demander aux voisins. Ils apprennent à s'entraider. Ils apprennent à trouver des solutions, en fait, eux-mêmes, sans moi. Parce que moi, le but, ça serait que je puisse ne pas être là, en fait, et que ça puisse vivre en autonomie sans moi. Parce que s'ils arrivent à faire comme si j'étais pas là, ils pourront être devant n'importe quel professeur et n'importe quel enseignant. Voilà. C'est de enlever cette dépendance qu'il peut y avoir à l'adulte, qui fait qu'on devient autonome, et qu'effectivement, si une fois, on a un maître ou un prof qui est un peu trop rigide, un peu trop ceci, un peu trop cela, c'est pas grave, parce qu'on sait que on est autonome en tant qu'élève et qu'on peut arriver à se débrouiller tout seul, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper important, même dans les futurs citoyens qui vont être, en fait.
Bien sûr, l'accès à l'autonomie, développer l'autonomie chez l'enfant, c'est un des rôles de l'école, et ça y répond bien. Alors du coup, la question que je me pose, c'est, tu as parlé de ces modes de fonctionnement que tu as mis en place dans ta classe, en termes de modes d'expression pour ces enfants atypiques qui ont vraiment besoin d'exprimer une émotion trop lourde ou un inconfort, comment est-ce que tu permets ces espaces d'expression dans ta classe ?
Alors, on a beaucoup de moments individuels. D'abord, ils savent qu'ils peuvent venir me parler. Tant que je suis pas en train de faire classe devant tout le monde, ils peuvent venir me parler. Donc, il y a ces moments du matin, il y a au récré. Moi, tout le vendredi matin, je le passe à les recevoir en individuel à mon bureau, en fait, pour parler de leur semaine à chacun, aussi bien au niveau du travail que ce qui s'est passé. Donc, ils ont un temps, que ce soit les bons et sages, que les pas bons et pas sages. Tout le monde a son temps, en fait, parce que souvent, on passe aussi beaucoup de temps avec les élèves qui posent des difficultés, que ce soit scolaire ou comportemental. On oublie aussi un peu ceux qui peuvent être aussi atypiques, qui peuvent aussi beaucoup prendre sur eux et un peu se suradapter, mais fait qu'ils font pas de vagues, mais à lesquels c'est important aussi de parler. Donc j'essaie de prendre tous ces temps-là. Et au début, c'est moi qui parle beaucoup, hein, parce que il faut parler avec eux de, oui, t'as le droit d'être en colère, mais la colère peut pas s'exprimer de telle ou telle manière, tatatiata. Puis petit à petit, ça fait son chemin. Et là, par exemple, je vais te donner un exemple. Ils sont remontés. On a des problèmes avec le foot, parce que avec le foot, à la récré, on se dispute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je leur ai expliqué que c'était avant tout un jeu, et que c'était fait pour s'amuser, et que on pouvait pas remonter en étant très énervé. Sinon, ça veut dire que l'activité ne convenait pas. Donc ça, ils le comprennent maintenant. Ils ont du mal à accepter, mais ils le comprennent. Et là, j'ai 3-4 élèves qui sont un peu tapés dessus parce qu'ils n'étaient pas contents. Donc, on a revu les règles du foot. On a vu qu'on avait un carton rouge et qu'on était exclus du match suivant. Donc, je leur ai expliqué que demain, ils ne pourraient pas jouer au foot, en fait. Comme ils se sont tapés dessus, c'est l'équivalent du carton rouge au foot. Voilà, ça ne pose pas de problème, en fait. Ils comprennent. La règle est telle. J'ai même pas essayé de chercher ce qui s'était passé. C'est juste qu'il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir. Et à partir du moment où tu as bien identifié avec eux quel comportement était acceptable et d'autres non, quand la sanction, entre guillemets, tombe, en fait, elle est complètement acceptée. Donc, ils savent, il y a leur nom, ils savent que ben après, on est réintégré en fait, comme pour les règles de foot. En fait, les règles de foot, de sport, de société, de classe, tout ça, c'est un peu la même chose. Donc, j'aime bien faire des parallèles. Mais ils acceptent, en fait, parce qu'ils savent que leur comportement, à ce moment-là, n'est pas adapté. Ben, on apprend ça. On apprend à pas mettre des coups de pied dans les portes quand on est très en colère, mais qu'il y a des mots et que on peut s'isoler, on peut faire plein de choses. Mais on l'apprend et c'est ça qui demande du temps et de l'énergie au départ. Après, c'est bien.
Alors oui, donc justement, sur la gestion des émotions, comment est-ce que tu travailles ça, toi, avec les élèves? Est-ce que tu as des supports particuliers pour travailler là-dessus?
Donc on a vraiment travaillé sur les émotions et sur la sensibilité. Donc on a fait des classiques, hein, on a regardé vice-versa pour identifier les 5 plus grandes. Ensuite, on a lu des livres, fait la météo des émotions par moment, surtout à la rentrée en début d'année. On essaie de mettre des mots, on essaie de varier aussi après aller plus loin. On a vu ce que c'était tous les sentiments, la tendresse, la frustration, tout ça pour trouver les mots justes aussi quand on parle. On a parlé de la sensibilité en étudiant un album. Du coup, bah, c'est plus facile aussi pour eux pour nommer, en fait. Quand ils sont en colère, ils peuvent dire qu'ils sont en colère parce qu'on a vu ce que c'était que la colère et comment elle pouvait se montrer. Voilà, toutes leurs émotions sont acceptées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles arrivent, je leur dis qu'ils ont le droit d'être en colère. Comme ils ont le droit d'être en colère après moi, voilà. Enfin, on a le droit d'être en colère après tout le monde. En revanche, il y a des comportements qui vont avec, qui sont pas acceptables, et d'autres qui sont acceptables. Et c'est là le gros du travail. C'est pas tant les émotions, parce que finalement, ça va assez vite, parce qu'ils sont très dans l'émotion et dans le ressenti, les enfants. Donc, ils s'expriment. Quand ils sont tristes, ils pleurent, quoi. Les adultes pleurent pas forcément, mais les enfants pleurent. Quand ils sont contents, ils rigolent. Enfin, voilà, tout ça, ça vient vite. Par contre, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles limites on peut se mettre par rapport à ça? Une fois qu'on la ressent, est-ce que ça doit durer longtemps, pas longtemps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer d'état si on sent que ça prend trop de place? Et c'est plutôt ça qu'on travaille, tous ensemble. Donc, ils en discutent, ils se donnent leurs tuyaux les uns aux autres. Voilà. Donc, quand on parlait de la sensibilité, on cherchait des choses qui faisaient du bien quand on était en colère. Et donc, il y a à peu près 3/4 de ma classe, c'était le contact avec l'eau. Donc, de prendre une douche ou de prendre un bain à la maison. Effectivement, parce qu'on a fait le distinguo entre ce qui était possible à l'école et à la maison. Et puis, voilà, d'entendre des élèves, « Ah bah, moi, je vais essayer la prochaine fois, alors quand je suis en colère, de demander à papa ou à maman d'aller prendre une douche. » Et voilà, ils s'échangent, en fait, des petits trucs aussi. Et je leur ai bien expliqué qu'on avait chacun les nôtres et que moi, je pouvais leur dire ce que je faisais, mais c'était pas pour ça que ça serait bien pour eux. Et donc, il faut essayer des choses pour savoir, en fait, connaître ses besoins et savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien. Parce que ça, c'était hyper important aussi qu'ils comprennent que ce qui nous faisait du bien à nous, c'est pas forcément du bien à l'autre. Il n'y a pas une recette miracle, en fait. Il y a juste des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et après, ben, il faut tâtonner, et petit à petit, on comprend. Il y en a un qui m'a dit, ah, mais c'est pour ça, alors que quand je respire fort, après, ça va mieux. Je dis, voilà, en fait, toi, tu fais des exercices de respiration. Après, je mets pas de terme par-dessus, en fait, on s'en fiche. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, pour l'instant, c'est pas le problème du pourquoi, c'est de savoir que toi, quand t'es énervé, si tu fais des grandes inspirations et des grandes expirations, ça te fait du bien. Et ça, il faut que tu le gardes dans ta tête, parce que des moments où tu vas être énervé, il y en a d'autres, et tu sais que ça marche. Et voilà. Et c'est d'arriver petit à petit. Alors, ils écoutent ce que font les autres, et puis ils découvrent petit à petit, ce qui leur fait du bien, quoi.
Effectivement, c'est quand même très atypique tout ça dans une classe. Comment est-ce que tu penses être perçu par tes collègues ?
Alors, un peu bizarrement, surtout au début, au bout d'un moment, quand ils se rendent compte des effets que ça peut avoir sur certains enfants, qui potentiellement sont au départ très problématiques, finalement, je crois qu'ils arrivent à se dire que ça marche. Après, c'est pas parce que moi je le fais que tout le monde peut le faire, c'est toujours pareil, en fait, hein, c'est chacun en fonction de ce qu'il arrive à faire. Donc en fait, il y a deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont faire des petites choses pareilles. On est plusieurs collègues à travailler un peu de la même manière, hein. On échange pas mal entre nous. Et puis après, je pense qu'il y a ceux qui n'y arrivent pas forcément, qui vont pas forcément se l'avouer, parce que c'est pas forcément simple, même dans notre boulot à nous, de dire qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Mais en revanche, je peux être amenée à récupérer des enfants qui sont difficilement gérables dans une classe, parce que finalement, on sait que une fois qu'ils vont arriver dans ma classe, ils vont se calmer, je vais pouvoir discuter avec eux avant qu'ils repartent dans leur classe à eux. J'aime bien avoir d'autres élèves. Là, j'en avais un cet après-midi, voilà, par exemple, qui a passé toute la fin de la journée avec nous. Je discute beaucoup avec lui aussi. Il voit comment ça se passe avec les autres. Et en tout cas, on sait que c'est un endroit où il peut s'apaiser avant de repartir, en fait. Donc voilà, il y en a qui le font eux et qui le font très bien. Et puis il y a ceux pour qui c'est plus complexe, mais dans ce cas-là, je leur dis que déléguer, c'est quand même très très important en fait.
Donc il n'y a pas forcément une transmission de tes méthodes ou de ta façon de faire, c'est un peu chacun qui va s'inspirer s'il en sent l'envie, l'élan, mais sinon effectivement, c'est plutôt les élèves en question qui sont adressés à toi, que ce soit provisoire sur quelques heures ou sur peut-être du plus long terme.
Ouais. Exactement. Mais du coup, voilà, on s'inspire. Et tu sais, tout ce qui est un peu atypique et qui est un peu différent, ça prend toujours du temps, en fait. Donc, avant, j'étais un petit peu moi-même un peu pressée de voir ça autour. Et puis, en fait, j'ai compris maintenant aussi que tout ça, ça prend du temps et qu'il faut laisser le temps aux choses de s'installer et aux gens d'arriver dans des choses un peu différentes pour que ça se passe mieux pour les enfants, quoi.
Tout à fait. Alors, vraiment, mon idée en te proposant ce podcast, Alexandra, c'est vraiment d'inspirer un maximum de personnes qui nous écoutent, que ce soit des parents ou des enseignants comme toi, au fait qu'il faut juste essayer, expérimenter, proposer des choses et voir comment ça impacte dans la classe.
Exactement.
Que finalement, quelque chose est possible aussi dans l'accueil de ces enfants-là, sans forcément aller vers des écoles spécialisées, parce que toi, tu exerces dans le public.
C'est ça, c'est ce que j'allais rajouter, c'est que je suis dans une école parfaitement normale, publique, républicaine, avec des contraintes de programme, d'horaire, et en même temps, c'est possible, tout en respectant ça, de faire les choses un peu différemment. On n'ose pas forcément, mais en fait, c'est possible.
On a des résultats. Alors, dans ce que tu dis, il y avait une notion aussi de détection que toi, tu peux avoir par tes filtres à toi, ta sensibilité, ton profil, qui va te permettre d'identifier chez un enfant un atypisme particulier, une sensibilité élevée. Comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu en parles aux parents ? Est-ce que ça a du sens de le faire ? Voilà, quel est le rapport avec le parent ?
Alors, en fait, je les identifie effectivement assez vite. Il y a deux cas de figure, en fait. Il y a des enfants qui sont atypiques, mais où, voilà, ils suivent leur petit bonhomme de chemin, tout va bien. Et puis après, il y a des enfants atypiques où ça peut poser des problèmes dans la scolarité ou dans la relation aux autres. Il se trouve que, effectivement, dans ma classe, ça pose pas trop de problèmes, puisque moi, j'en tiens compte. Donc, j'ai toujours une vue un peu plus à long terme, en particulier l'arrivée au collège. L'école, quel que soit l'enseignant, ça reste quand même un petit cocon. C'est pas toujours simple, mais ça reste un cocon. On n'est pas dans la grande cour où on est mélangé avec je ne sais pas combien d'élèves, des profs qui nous connaissent pas parce que ça change toutes les heures. Voilà, c'est très très différent. Donc en général, quand je parle aux parents, c'est vraiment dans une vue à 2-3 ans avec un collège qui arrive derrière. Donc ça peut être un enfant qui a des problèmes relationnels où finalement ça se passe bien dans ma classe parce que on travaille pour que les relations avec les autres, le rapport au groupe se passe bien, mais où je me dis oula, ça va être peut-être être dur l'arrivée au collège. Donc dans ce cas-là, j'en parle déjà aux parents en les rassurant, en leur disant que voilà, leur enfant n'est pas malheureux ou quoi que ce soit, mais que ce serait bien quand même de creuser un peu parce que ça pourrait potentiellement poser des problèmes plus tard. Et je leur explique, je me cale sur mon parcours et je leur dis qu'en fait, plus leur enfant se connaît, plus ce sera facile, en fait, de s'assumer, entre guillemets, par rapport aux autres, et en tout cas d'assumer sa différence, et mieux il le vivra, en fait, dans ses relations aux autres. Donc, je leur en parle. Je suis pas là pour poser des diagnostics, en fait. La seule chose potentiellement que je peux dire, c'est dire à des parents que leur enfant est hautement sensible parce que je me suis formée à ça. Pour le reste, non. Donc, je dis que cet enfant, ben voilà, il me semble précoce, mais que c'est pas moi qui dit qu'il est précoce ou pas précoce. Par contre, je les aiguille vers les endroits où ils peuvent aller pour essayer de creuser un peu l'idée. Et des fois, ils réagissent tout de suite. Des fois, ça met un an, peu importe. Mais j'essaie de semer des graines ou en tout cas d'alerter. C'est toujours, je trouve, un petit peu fort. Mais en tout cas, de leur montrer qu'il y a peut-être une atypie, une différence et que c'est important de le savoir, en fait. Et l'autre fois, par exemple, je parlais avec une maman, on parlait de précocité, et elle me dit, oh oui, j'ai lu un peu, mais à chaque fois que je lis un livre, je te cite ces mots, c'est qu'un nid en merde. Parce qu'en fait, le livre qu'elle avait pris, comme beaucoup de livres, met en avant toute la problématique et tout ce qui va pas. Et c'est compliqué à recevoir, en fait, de se dire, déjà, avoir l'impression que son enfant est un peu différent, mais qu'en plus, quand on se plonge dans la littérature, on fait une espèce de liste énorme de tout ce qui va être difficile et tout ce qui va être compliqué, c'est pas facile à recevoir. Donc en fait, je lui ai juste expliqué que c'est comme si son fils était gaucher et qu'il écrivait de la main droite. En fait, il allait y arriver, voilà. Parce que les gauchers contrariés, ils arrivent tous à écrire. Mais que ça lui demanderait plus d'efforts, que ce serait moins beau et ce serait moins naturel pour lui. Et qu'effectivement, c'est pas toujours facile d'écrire de la main gauche parce que ben, les modèles d'écriture, on les cache, parce que on fait des traînées avec sa main parce que la main, elle frotte sur le papier et ça met de l'encre. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, notamment à l'école pour les gauchers. Il faut des ciseaux de gaucher parce que c'est compliqué d'apprendre avec des ciseaux de droitier de la main gauche, c'est pas possible. Ou alors il faut qu'ils apprennent à couper de la main droite, etc. Mais au final, une fois qu'on avait passé un petit peu toutes ces petites particularités, ils sont très à l'aise, les gauchers. Un gaucher, ça peut écrire très très bien. Mon fils est gaucher, il écrit très très bien. Voilà. C'est pas forcément une écriture moche, sale, etc. Mais il faut prendre l'enfant comme il est, avec ce qu'il sait faire. Et ne pas contrarier, c'est pour ça qu'on dit gaucher contrarié, quoi. Et en fait, un enfant qui aurait un fonctionnement d'enfant précoce et qu'on voudrait garder, pas le considérer comme un enfant comme ça, c'est-à-dire que quand il commence à partir dans des grandes envolées de discussions et que ça nous saoule et qu'on n'a pas envie de l'écouter et qu'on lui dit tais-toi, c'est pas de ton âge, tatatata, alors qu'il a un raisonnement qui va un peu plus que son âge, bah en fait, il est contrarié. Et donc, c'est là où ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'en tout cas j'essaie de pousser les parents à leur donner des pistes pour essayer de comprendre le fonctionnement de leur enfant, parce que c'est pas facile, pour l'enfant, c'est pas facile pour le parent, mais plus tôt on comprend comment ça fonctionne, mieux c'est. Alors je vais pas forcément au bout, c'est-à-dire que je peux me dire tiens cet enfant a des traits autistiques et je vais pas dire qu'il a des traits autistiques. Par contre je peux dire que les relations avec les autres sont compliquées et qu'il faut peut-être chercher à ce moment-là qu'est-ce qui bloque, etc. Donc on en discute. Donc en fait je mets les mots quand je pense que c'est important de les mettre, mais parfois, je les mets pas, je constate juste des choses qui se passent dans la classe, et voilà. Et surtout, je n'interfère jamais dans le rôle des parents. C'est-à-dire que je peux dire à des parents que leur enfant est fatigué, par contre, je vais pas leur demander à quelle heure il se couche ou leur dire qu'il faut qu'il le couche plus tôt. Voilà. Je fais des constats sur ce qui se passe en classe. Après, c'est leur enfant, donc c'est eux qui l'accompagneront. C'est eux qui savent s'il faut qu'ils se couchent plus tôt, pas plus tôt, c'est pas moi. Et voilà, je donne des pistes en fait.
C'est important ce que tu dis, il faut aussi laisser le parent cheminer parce qu'il y a des questions très importantes derrière. Il y a l'acceptation de la différence tout court et la différence de son enfant. Une fois qu'on sait et qu'on voit, on ne peut plus l'ignorer et donc on doit prendre des responsabilités en fait. Et ça, c'est un cheminement pour les parents que je vois moi aussi à mon cabinet. C'est pas évident, donc il faut être très bienveillant avec ce rythme-là. Voilà, donc semer des graines mais les laisser pousser tranquillement.
C'est ça.
Sans jugement. Avec beaucoup de bienveillance.
Et j'essaie toujours aussi de leur montrer que, voilà, quand on commence à rentrer vraiment dans les discussions, c'est-à-dire que eux vont me poser des questions, j'essaie de leur montrer tous les points positifs qu'il y a sur chacune des atypies, comme il y a du positif dans chaque enfant, en fait, atypie ou non atypie. Voilà, pour qu'ils comprennent que c'est pas que un nid en merde, en fait, et qu'il y a plein de trucs super d'être avec des enfants précoces, d'être avec des enfants autistes, d'être avec des enfants hypersensibles. Enfin bon, il y a plein de choses bien dans chaque enfant, en fait. C'est juste qu'il faut le prendre comme il est, comme un enfant. Mais en fait, on parle là vraiment de spécificité, parce qu'on a décidé de parler d'atypie, mais on aurait la même chose avec un enfant qui adore le dessin, qui adore le sport. Voilà, où c'est important, s'il adore le sport, qu'il fasse du sport, et ne pas le forcer à faire de la musique, s'il déteste la musique, voilà. En fait, c'est juste écouter son enfant comme il est, ce qu'il aime, et puis l'accompagner là-dedans, même si c'est pas notre case de départ, en fait. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est quand l'enfant sort un peu de la norme donnée par la société, quelle que soit la norme, en fait.
Oui, complètement. Alors, du coup, finalement, dans cette vie de maîtresse atypique, qu'est-ce que tu préfères le plus ? Qu'est-ce qui t'épanouit le plus ?
Moi, ce que je préfère, c'est la vie de classe. Voilà. C'est ce partage d'heures ensemble, de discussions, de régler des... Que ça aille du conflit aux échanges, aux rigolades. Voilà, c'est ce partage-là. J'ai l'impression d'être un peu chef de tribu, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de les voir grandir. Là, par exemple, je suis ma classe. Donc, ça va faire 1 an et demi que je les ai. Je les ai récupérés. Ils étaient en début de CE1. Ils étaient tout petits. Et là, de les voir grandir, je trouve ça génial, de voir le relationnel qu'ils ont créé entre eux, en fait, à quel point le groupe est soudé maintenant, leur capacité à régler les conflits maintenant entre eux, sans mon intervention. Moi, c'est ce que j'aime, voilà, c'est partager ensemble ces moments qui n'appartiennent qu'à nous, en fait.
Et comment est-ce qu'ils te remercient de tout ça, les enfants ? Quelles sont leurs marques d'affection ?
Alors déjà, très tôt dans l'année, ils me demandent si ils vont m'avoir l'année d'après. C'est la première marque d'affection, en fait. Hein. C'est que quand ils veulent rester avec toi. Non, puis ils jouent le jeu. C'est-à-dire que ça se témoigne que comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant, à un moment, qui était considéré un peu comme une cause perdue. Enfin voilà, moi, mon credo, c'est les enfants en rupture scolaire et de leur redonner goût à l'école. Et quand je les vois travailler, quand j'en vois un qui me dit « Ah, mais en fait, c'est hyper facile. » Oui. Ça fait 6 mois que je te dis que c'est hyper facile. Quand un enfant, tu l'entends dans ses mots, qui te dit qu'il est nul, et qu'à un moment, ça y est, on franchit un cap, et il le dit plus, et il le pense plus, ça me suffit, en fait. Tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup plus. C'est juste les voir évoluer dans le bon sens, et reprendre goût, avoir le sourire. Je récupère quand même des enfants qui ne sourient pas, par exemple, du tout, jamais. Et ben, je peux te dire que le premier sourire, quelle que soit la raison, il fait quand même vachement, vachement de bien, quoi. Donc, ou des enfants qui n'osent pas parler, et puis après qui prennent la parole pour lire des histoires devant les autres. Ou des enfants qui n'ont pas prononcé un mot depuis la petite section. Et 1 an après, ils lèvent la main pour passer au tableau. Voilà. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est de les voir évoluer. Et finalement, de les remettre dans un espèce de naturel. J'ai pas besoin de plus. C'est juste qu'ils reprennent leur place d'enfants. Ou en tout cas, même quand ils ont des conditions de vie de famille très très difficiles, parce que ça arrive aussi, qu'ils puissent s'épanouir au moins sur le temps de l'école, être heureux, comme tous les enfants devraient l'être en fait.
Et oui. Eh bien, écoute Alexandra, c'est vraiment passionnant ce que tu nous partages et très émouvant. Pour conclure, quel serait le message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs et auditrices ?
Alors aux parents en particulier, si vous avez des enseignants qui vous parlent de ça, soyez à l'écoute. C'est pas forcément de dire oui, mais en tout cas... Semer, voilà, cette graine, elle est faite pour être semée. Donc, semez-la et attendez qu'elle pousse. Ça prend du temps. Si, en revanche, vous êtes au courant des atypies de votre enfant, il faut en parler, en fait. Le problème, c'est d'avoir un corps enseignant qui n'est pas forcément réceptif. Ça arrive. Donc, dans ce cas-là, moi, je conseille vivement d'impliquer les médecins dans l'histoire, en fait. Parce qu'à un moment, un mot du médecin, une lettre officielle d'un médecin prend valeur, en fait, aux yeux des enseignants. Donc, c'est important. Et peut-être que ça peut aider aussi même dans le parcours de votre enfant dans l'école où il est. Parce qu'en fait, il y a des enseignants comme moi qui sont plus réceptifs à ça. Et si on est au courant très vite des particularités de l'enfant, eh ben, c'est plus facile aussi pour nous de savoir dans quelle classe le mettre ou dans quelle classe ne pas le mettre, avec qui le mettre, avec qui ne pas le mettre. Donc, il faut oser, voilà. Sans en faire trop, on s'en fiche, c'est pas grave. On parle de mode de fonctionnement d'un enfant et de ce qu'il est. Donc, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune gêne. Il y a des enfants en termes de handicap dans toutes les écoles maintenant. Et donc là, on n'en est pas dans ce cas-là. Donc, du coup, je trouve que c'est important, en fait, le partage. Voilà. Si le parent se pose des questions, c'est comme nous, hein. C'est pas lui qui pose des diagnostics non plus. Mais par contre, il peut dire que depuis la maternelle, c'est compliqué le relationnel aux autres, tatati, qui se pose des questions, tout ça. Et on peut échanger. On peut le mettre chez un maître qui va être plus sécurisant parce qu'on sait que ça serait mieux qu'il ait un homme en face de lui plutôt qu'une maîtresse, voilà. Et tout ce que les parents vont nous apporter sont aussi matières. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que, voilà, c'est un grand débat dans l'éducation nationale, mais le secret médical est tenu. Donc en fait, toute info ne peut arriver que par les parents et pas par les médecins, même si l'enfant est suivi par plein de médecins. Et en même temps, on en a besoin. C'est-à-dire que nous, ça nous évite... parfois de galérer pendant 4, 5, 6 mois à détecter des choses, alors qu'en fait, on aurait pu avoir les infos tout de suite. Il n'y a pas de honte. Voilà, il faut y aller. On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Des enfants atypiques, il y en a beaucoup. Si on prend les enfants hautement sensibles, la proportion dans la population, c'est 1/3. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers de nos classes qui sont concernées. Pour le coup, c'est un grand nombre. Évidemment, les précoces, c'est beaucoup moins, les très autistiques aussi. Mais on a de tout. Donc en fait, il ne faut pas avoir de gêne ou d'embêtement d'exposer le mode de fonctionnement de son enfant s'il y a des choses qu'on comprend. Et il y a des gens qui sont très réceptifs à ça. Et ça a tant à évoluer. Donc il faut que les parents contribuent aussi à ce que tout ça, ça évolue en douceur et avec bienveillance.
Merci Alexandra. Et moi j'ai envie de rajouter, chers parents, Alexandra a un Instagram très vivant et très inspirant. Hein, donc Alexandra, je partage ton Insta, Alexandra Devaux 8. Je mettrai en bio le lien. Et donc n'hésitez pas à aller voir et également à en parler aux instituteurs, enseignants autour de vous. Il y a des choses à faire et qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de toi.
Bien sûr, par message, il n'y a pas de souci, je répondrai avec grand plaisir.
Super. Mais voilà, on arrive au terme de cette interview. Alexandra, je te remercie profondément pour ta générosité, ton authenticité et toute la bienveillance que tu accordes à ces enfants atypiques. Merci, j'imagine que quand on fait ce métier, c'est vraiment une vocation et tu l'incarnes parfaitement là aujourd'hui. Donc merci à toi.
Merci à toi, merci pour l'invitation, merci pour ce beau moment. C'est toujours agréable d'échanger avec toi, c'est un vrai plaisir. À très bientôt.
À très bientôt, Alexandra.